Africa.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Mars Africa. Bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique. Nous serons aux quatre coins de notre continent tout au long de l'émission avec un fil conducteur et tirage au sort des Cannes U17 et U20 qui a eu lieu jeudi dernier, le Maroc dans le groupe de la mort en ce qui concerne la Cannes U20. Mais avant de développer tous ces sujets, notamment l'actualité dans la plupart des pays que nous allons visiter, je vous propose de retrouver Mehdi Benhalal pour une synthèse de l'actualité. Sbah al-khair Mehdi.
Sbah al-khair Amin, tahiya al-mustami'a Radio Mar.
موجز الاخبار.
والبداية من ألمانيا حيث أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أمس عدة مباحثات ثنائية على هامش الدورة 61 لمؤتمر ميونخ للأمن بدءا بالأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليسيت ساولو وذلك حول تبادل الخبرات وتثمينها وتعزيز نظم الإنذار المبكر كذلك اعتماد ناش أكثر السباقية كما ناقشت المسؤولتان تطوير مفهوم الممرات في المجال الطاقية. بالرباط أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أمس على الافتتاح الرسمي للخزانة السينمائية المغربية بمقر المركز السينمائي المغربي وتروم هذه المؤسسة الجديدة على غرار نظيراتها العالمية توفير فضاء وطني متخصص في حفظ وتوثيق وترميم التراث السينمائي الوطني فضلا عن عرض أعمال سينمائية وطنية وعالمية. ببني ملال تواصل مصالح التعاون الوطني بفعالية تنفيذ عملية شتاء دافئ في المناطق الجبلية بالإقليم وذلك بفضل تعبئة واسعة تروم دعم الفئات الهشة لا سيما من هم بدون مأوى وتعمل مصالح التنسيقية الجهوية بمساعدة السلطات المحلية على مستوى الجامعة الجبلية تجزيرت بني ملال دون كلل على استكمال توزيع حصص المواد الغذائية والأغطية على سكان الدواوير الرئيسية النائية وذلك بسبب الظروف القاسية لفصل الشتاء. نهاية الموجز عودة إلى أمين بيروك وحلقة اليوم من مارس أفريكا. صباحكم سعيد.
Merci de votre fidélité à Radio Mars et en particulier à ce rendez-vous dominical Mars Africa. Nous serons ensemble jusqu'à midi. Avant notre tour d'horizon, notre tour d'Afrique, commençons par la chanson symbole de la Cannes 2025, Maghribi Maghribi et Redouane. Merci de votre fidélité à Mars Africa. Vous êtes sur Radio Mars. أول إطلالة غادي تكون من العاصمة المصرية القاهرة. صباح الخير طارق رضوان. Alors normalement nous devrions l'avoir dans quelques instants, notre ami Tariq Radouane, pour pouvoir parler un peu de ce tirage au sort, notamment de la CAN U20 où le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria sont dans le groupe de la mort. Un tirage très très compliqué. Je rappelle que à l'arrivée il y a 4 billets pour les demi-finalistes qui devront représenter l'Afrique pour la Coupe du Monde au Chili au mois de septembre prochain. Tariq Radouane, sabah al khair.
صباح النور اهلا بحضرتك
ويعني
انت طيب بمناسبه نصف شعبان وان شاء الله يكون شهر مبارك
اللهم امين اللهم امين اللهم امين يعني ومسبقا احنا كنسمعوا الهواشر يعني العشر الاواخر فبطبيعه الحال فاحنا دائما يعني كلنا ابتهال ودعاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك الافضل طارق رضوان نتكلموا على كاس افريقيا الاقل من 20 سنه اللي غتشارك فيها المغرب ومصر اللي كيتواجدوا في مجموعه حديديه مع كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا
صحيح أولا بالمناسبة أنا شفت منتخب المغرب لما كان بيلعب عندنا في تصفيات البطولة 20 سنة واحتل المركز الأول فريق ممتاز تم إعداده بشكل جيد والمغرب الحقيقة فيه ميزة كويسة قوي حصلت في السنوات الأخيرة كان زمان الاهتمام بمنتخبات الناشئين والشباب كان قليل شوية دلوقتي بقى الاهتمام ممتاز ورائع يعني الاهتمام بمنتخب 17 منتخب 20 سنة بالمنتخب الأولمبي ممتاز والدليل على كده النتائج اللي احنا شفناها دي حاجة الحاجة التانية كمان ملاحظ ان الفريق كان زمان المغرب بتعتمد في المقام الأول في كل لعبتها على لاعبين المحترفين لا انا شفت لاعب من التواركة او 2-3
وعدحك
ايوه طبعا الضحاك وشفت الزهواني يعني في لاعبين في أندية محلية ممتازة وحتى الأندية المحلية ما هيش الرجاء أو الوداد أو الجيش الملكي لا يعني تحت وركة فإذا فيها عين كويسة أو بسط يعني مصر 20 سنة كان احتل المركز الثاني رغم أن البطولة كانت في مصر والحقيقة أن منتخب المغرب كان جدير الحقيقة بالفوز بالبطولة يعني زي ما خلال ما تبع المجموعة بتاعتهم هتبقى صعبة جدا 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 ليه؟ لأنه نيجيريا على مستوى منتخبات الناشئين دايما عندها فرق قوية ومش أنا اللي بقول كده التاريخ بيقول كده لدرجة أن هي فازت قبل كده مثلا المنتخب الأولمبي بتاعها فاز بدورة الألعاب الأولمبية لو تفتكر حضرتك كده ترجع للذاكرة لسنة 96
أيوة.
فوصلت لنهاية كأس العالم للشباب وعملت مردود هايل يعني كاتريا وغانا بيتنافسها دايما فأنت توقع انه في تيم قوي لمنتخب نيجيريا رغم ان احنا يمكن ما تابعناش اداءه كتير بس اتوقع ان هتكون المنافسه قويه جدا جنوب افريقيا من الدول اللي عندها كوادر ممتازه وتخطيط ممتاز وملاعب جيده ويعني ماشيه بشكل كويس جدا فبرضه فريقها هيكون قوي جدا عشان كده المجموعه دي هتبقى مجموعه صعبه جدا هي اصعب مجموعه على الاطلاق وطبعا البطوله حضرتك عارف ان هي بتلعب في كوت ديفوار في ابيجان في شهر ابريل ففي فرصه يعني شهرين سواء للمنتخب المصري او المنتخب المغربي ان هم يستعدوا بشكل جيد للمنافسات البطوله اللي فيها كمان كوت ديفوار وفيها غانا وفيها السنغال كل القوى العظمى تقريبا موجودة في كأس الأمم الأفريقية 20 سنة
وهي بطولة يعني طريقة التنافس فيها غريبة يعني متواجد فيها 13 منتخب هذه يعني
صحيح بس أنا عايز المفارقات. أقول حضرتك برضو أقول أنه الاتحاد الأفريقي عمل نظام غريب في السنوات الأخيرة وأصبح بيظلم به منطقة شمال أفريقيا التصفيات بيحط كل شمال أفريقيا في مجموعة واحدة يعني مثلا منتخب تونس مش موجود الجزائر الفرقة دي لو كانت موجودة في مجموعة فيها مثلا نيجر أو فيها مالي أو فيها بوركي يعني تبقى في مجموعة طبيعي زي ما كان بيتعمل قبل كده ماشي لكن أنا مش عارف إيه النظام الجديد اللي بيحط أقوى فرق في أفريقيا كلها
نعم.
في مجموعة واحدة
يعني يمكن نظام على حسب الاتحادات يعني أو المناطق والسؤال اللي مطروح يعني بطولة 13 منتخب 4 منهم تتأهل كأس العالم تأهل الدور الموالي يعني الأحسن الفرق اللي كتحت للصفة الأول والثاني وأحسن التوالت يعني كتبقى أنه العملية شوية مركبة علما بأن البطولة ستجرى في فترة خارج تواريخ الفيفا بمعنى الاعتماد على لاعبين مغتربين يكون راهين بالتفاوض بين الاتحاد الوطني والنادي بشكل مباشر
كل الدول اللي عندها محترفين كتير هيعانوا من الموضوع ده. المغرب طبعا عندها بعض اللاعبين انا عارف المحترفين، ولكن كويس انه التشكيلة فيها لاعبين محليين من اندية محلية، لكن هو التفاوض مع الاندية دي يجب ان يبدأ مبكرا، يعني هي بتبقى عايزة تواصل وعايزة علاقات جيدة. اعتقد انه الجماعة المغربية عندها علاقات ممتازة بالاتحادات الاوروبية واللي بيلعب فيها اللاعبين المغاربة، فأتصور أنه حتى يعني لو وصلوا حتى 80% من اللاعبين اللي ممكن يشاركوا من التشكيلة ماشي، يعني افرض أن أنت عندك 10 لاعبين محترفين قدرت تجيب 8، يعني أقول كده حيبقى مرضي إلى حد كبير، لأنه توقع أن أندية حترفض، في بعض أندية حترفض تقول لك ده مش الأجندة الدولية ولا بعته ليه، ما ممكن يتصاب، ممكن يجرى له حاجة، ممكن يعاني من الإجهاد، فممكن يرفضه. لكن المغرب انا بقول ان عملت حاجه كويسه، وده اللي قلته في الاول، ابتدت تدخل وتستعين وتعتمد على اللاعبين المحليين في انديه مغربيه، وده شيء كويس.
ونفس الشيء بالنسبه للكاس اقل من 17 سنه اللي اعترفت تمثيل عربي ستنظم في المغرب، وستعرف مشاركه كل من المغرب، مصر وتونس. المغرب في المجموعه الاولى، مجموعه انجلوفونيا مع اوغندا تنزانيا زامبيا، مصر في مجموعه اصعب مع بوركينا فاسو جنوب افريقيا ومنتخب اهل من منطقه وسط افريقيا، وتونس كذلك في مجموعه ليست بسهله مع السنغال غامبيا والصومال.
طبعا البطوله دي هتستضيفها المغرب، ودي ميزه كويسه جدا للفريق يعني المغربي، هتبقى من 30 مارس ل 19 ابريل، يعني بقى عليها شهر ونص بالتحديد، هتكون كل سنه وانت طيب كده في العيد او في نهايه شهر رمضان يعني، لكن الغالبيه العظمى البطوله هتكون بعد شهر رمضان وفي العيد، فما فيش اي مشكله. المنتخب المغربي 17 سنه انا اتفرجت عليه، طبعا البطوله كانت يعني التصفيات طبعا المنتخب المغربي أدى فيها مردود ممتاز واحتل يعني ترتيب جيد، ولكن ال 17 سنة بتبقى سن أصعب شوية من 20 سنة، لاعب مستوى بيتغير شوية، لسه بعض اللاعبين ما لعبتش مع الفرقة الأولى، فهنا بقى دور الجهاز الفني أنه يحافظ على اللاعبين. والمغرب مجموعتها أوغندا وتنزانيا وزامبيا، مع احترامي الشديد لكل هذه الفرق، لكن مدارس فرق الناشئين المميزة معروفة، لن تخرج عن نيجيريا، عن غانا، عن مالي عندها برضو يعني فرق ممتازة طول عمرها في مراحل الناشئين، دول شمال أفريقيا عندها فرق جيدة. فأعتقد أن المنتخب المغربي في وجود أوغندا وتنزانيا وزامبيا ما فيش خوف، يعني إن شاء الله قدر على التأهل. وبعدين عنده عنصر كويس جدا الجمهور والملعب، يعني الجمهور المغربي بيحضر المنافسات كلها وبيأزر كل الفرق. وانا ما انساش المنتخب الاولمبي المغربي السنه اللي فاتت قبل ما يعني في التصفيات المؤهله لدوره الالعاب، كان الملعب بيمتلئ في معظم المباريات تقريبا ب 40 وب 50 الف، فده شيء جميل ورائع يعني.
بالكلام على المنتخب المصري سواء اقل من 20 سنه او اقل من 17 سنه، لاحظنا انه كان بعد تذبذب في الاداره التقنيه، هل تم استدراك الامر حتى تكون المنتخبين او يكون المنتخبين المصريين يعني مستعدين لدفاع حدودهم؟
المنتخب مصر عنده اللي ماسك تيم 20 سنة كان المدير الفني السابق ميكالي، اللي كان قاد منتخب مصر في دورة الألعاب اللي كانت في فرنسا، واللي قاد مصر في التصفيات اللي كانت عندكم المؤهلة لدورة الألعاب لما لعبوا فينال أو فاينال وفازت المغرب 2-1 في الوقت الإضافي. مدرب جيد وممتاز لكنه لم يكمل المهمة، وتم إسناد المهمة لأسامة نبيه، كان لاعب سابق في نادي الزمالك وكان مدرب مساعد ل يعني العديد من المديرين الفنيين في المنتخبات القومية. ولكن الأهم بقى طبعا منتخب 17 اللي هو كان عمل مردود رائع جدا، ويعني ضرب مثال في المصابرة وفي عدم اليأس لما كان خسر 5 وبعدين بعد كده كسب وكمل الماتشات وكسب كل ماتشاته وتأهل، فكان شيء كويس. المدير الفني بتاعه لاعب معروف جدا للجمهور المغربي، وطبعا معروف عندنا في مصر هو أحمد الكاس، والكاس كان لاعب في المنتخب المصري وفي نادي الزمالك وفي نادي الأولمبي السكندري. وأحمد الكاس يعني الحقيقة مدرب مميز، وقدر ان هو يعني يزرع روح التصميم في الفريق ويخرجهم الجو النفسي. على فكرة الأجهزة الفنية مع الأعمار الصغيرة بتبقى دورها كبير جدا، لانه المدرب بيشتغل سيكولوجي او جانب نفسي بالاضافه لكره القدم، لان انت عارف الاعمار الصغيره ممكن جدا المود بتاعه ما بيبقاش ثابت وممكن يواجه امور صعبه من يوم ليوم اخر. فالمدرب بيبقى عليه انه دايما يخلي اللاعب بتاعه في اعلى استعداد وفي اعلى مستوى بدني وذهني.
شكرا جزيلا استاذ طارق رضوان على جميع التوضيحات والشروحات، والى فرصه قادمه ان شاء الله. Il est 11h17 minutes, on va continuer notre tour d'Afrique. Nous irons du côté d'Abidjan parce que la Côte d'Ivoire va accueillir la CAN U20. Elisabeth Goli, bonjour.
Oui, bonjour Ami.
J'espère qu'il fait bon, qu'il fait pas trop chaud, parce qu'au mois d'avril prochain, entre avril et mai, il y aura la CAN U20 en Côte d'Ivoire à nouveau.
Oui, oui. Effectivement, il fait très chaud pour le moment.
Et il fera très chaud, je suppose, au mois d'avril, où la Côte d'Ivoire accueillera cette compétition avec, dans le groupe du pays organisateur, un pays à déterminer de la zone d'Afrique centrale, la RDC, le Ghana et la Tanzanie. C'est un groupe à cinq équipes, c'est le seul dans la compétition, dans la formule avec une compétition à 13, elle est un peu bizarre, mais c'est la CAF. Donc la Côte d'Ivoire démarra peut-être en douceur, mais Ghana et RDC sont de sacrés morceaux dans son groupe.
Effectivement, ce ne sera pas facile pour les éléphantos, parce qu'on sait d'abord qu'on était éliminé de la compétition avant d'être repêché, disons, pour être un pays organisateur. Donc, les choses ne seront pas faciles parce que si c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne marche pas au niveau des seniors du Ghana, mais il faut reconnaître qu'au niveau des juniors, des sélections juniors et autres, c'est vraiment une équipe très en forme, qui l'a toujours prouvé. Elle compte, je crois, si je ne me trompe pas, 4 titres de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est une équipe à prendre vraiment au sérieux. Il en est de même pour la RDC, qui est aussi une très bonne équipe, parce que ce sont des sélections, c'est vrai que ce sont des sélections qui ne marchent pas en senior, mais au niveau des jeunes, elles ont toujours fait preuve de performance, de très belles performances, et ce ne serait vraiment pas de tout repos pour la Côte d'Ivoire, même avec la Tanzanie qui est en train d'arriver. Donc la Côte d'Ivoire, en tant que pays organisateur, doit vraiment se mettre au travail pour pouvoir être à la hauteur de la compétition, parce que les U20 aujourd'hui sont très attendus avec la très belle performance des seniors. Donc, toutes les sélections aujourd'hui ivoiriennes, qu'elles soient U17, qu'elles soient U20 ou autres, sont toutes attendues pour de meilleurs résultats. Et surtout que la Côte d'Ivoire accueille encore à nouveau cette compétition des jeunes au niveau continental. Alors, il y a du boulot à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés en cette sélection ivoirienne.
Il y a aussi les U17 qui, eux, joueront quelques semaines plus tôt au Maroc, dans un groupe bien évidemment assez compact aussi. Je suppose que il y a aussi beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur ces jeunes qui auront un climat plus clément et qui ont la possibilité dans ce groupe à 4 avec le Mali, l'Angola et un qualifié de la zone centrale de l'Afrique centrale d'aller le plus loin possible, sachant qu'il y a 8 places qui sont octroyés, parce qu'il y a une Coupe du Monde à 24, il y a plus de 8 places qui sont octroyées pour la Coupe du Monde au Qatar U17.
Oui, tout comme la sélection U20, la sélection U17 est également attendue, et c'est aussi les mêmes objectifs qui sont assignés à ces deux sélections, pouvoir estampiller le ticket pour la Coupe, pour les différentes Coupes du Monde. Donc ce ne sera pas aussi facile. Et là-bas encore, au Maroc, en U17, on se retrouve dans une compétition Côte d'Ivoire-Mali ou Mali-Côte d'Ivoire, donc cette rivalité sous-régionale qui va se retrouver dans cette CAN, mais il faut dire que l'avantage dans cette CAN, c'est le Mali. Parce que, comme je l'ai dit, le Mali comme le Ghana, c'est vrai que ça ne marche pas. Au Mali, ça va mieux que le Ghana au niveau des seniors, mais il faut dire que les Maliens ont de très belles sélections. En U17 dans les petites catégories, là, les catégories des jeunes ont de très belles sélections, surtout avec le centre de formation de Jean-Marc Guillou qui a vraiment sorti de très grands joueurs de très grands joueurs dans ces catégories. Donc ce ne serait vraiment pas de tout repos pour la Côte d'Ivoire, mais toutefois les Ivoiriens attendent des éléphantos, un ticket pour la Coupe du Monde à défaut d'avoir la CAN. L'espoir c'est vraiment de remporter ce trophée, mais à défaut au moins avoir un ticket pour aller à la Coupe du Monde.
Alors, pour venir à la CAN U20, elle se déroulera à Abidjan, elle sera concentrée sur Abidjan ou bien elle aura lieu dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire?
Pas Abidjan, ce sera Yamoussoukro, San Pedro et Korogo.
Donc, ce sera dans trois villes avec la distance et la logistique à gérer, loin de bien évidemment d'Abidjan. Dans quelle mesure ces stades ont... La question, tu la connais, Elisabeth, c'est qu'en Afrique, sur l'autre joli continent, l'entretien ou le maintien ou la maintenance des stades, des infrastructures sportives fait souvent défaut. Est-ce qu'on a réussi à maintenir l'héritage de la post-CAN 2023?
Je dirais vraiment, c'est une grande première en Afrique subsaharienne que l'Office national des sports se soit approprié vraiment ces infrastructures après plusieurs visites dans plusieurs pays, dont le Maroc, pour voir comment est-ce que vous faites pour entretenir vos infrastructures sportives et autres. Aujourd'hui, ces infrastructures sportives sont encore au même niveau que l'on les a laissées après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à ce niveau. Et même les infrastructures hôtelières et autres, les gens continuent dans ces villes d'en construire. Donc, vraiment pas d'inquiétude. Nous avons encore de très beaux stades et chapeau à l'Office national des sports qui fait tout pour que ces infrastructures restent intactes et puissent toujours accueillir des grandes compétitions.
Ça fait plaisir parce que on a vu des stades dans certains pays, notamment le Gabon après la CAN.
Le Ghana,
des stades qui ils sont complètement laissés en déshérence et ça fait mal au cœur. Merci beaucoup Elisabeth Goli pour toutes ces explications. Bonne chance pour la CAN parce qu'elle aura lieu dans quelques semaines. Nous la suivrons avec beaucoup d'intérêt. Il y a deux équipes marocaines qui vivront les CAN des catégories U17 et U20 et ce sera l'occasion de les retrouver avec énormément de plaisir. Ce soit à Casablanca pour la CAN U17 ou en Côte d'Ivoire pour la CAN U20. Après la page pub, nous irons au Mali retrouver Drissa Niono.
سلامة للتيران فقراتكم الأسبوعية اللي كتهتم بالسلامة الطرقية من خلال طرح نصائح ومعلومات مع شبكة المراسلين للإذاعة طريق سلامة للتيران كل يوم سبت وحد طيلة الموسم الرياضي مباشرة على راديو مارس طريق سلامة للتيران مع ناغسا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
ناغسا سلامتكم أولويتنا
Merci de votre fidélité Radio Mars et à Mars Africa. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, 11h GMT, pour pouvoir vous donner le maximum de l'actualité sportive. Nous allons au Mali retrouver Drissa Niono. Bonjour Drissa.
Bonjour Amine Durouko, bonjour à toutes et à tous.
Et je vais me focaliser sur ces belles sélections du Mali U17 qui font plaisir à voir, qui ont brillé lors de la dernière CAN. Ils ont été demi-finalistes. Ensuite, ils ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde. Et là, ils remettent le couvert chez nous au Maroc. Tirage au sort effectué au Caire jeudi dernier. Le Mali se retrouve dans le groupe de la Côte d'Ivoire, de l'Angola et d'une sélection qui sera qualifiée après les préliminaires de la zone d'Afrique centrale, UNIFAC 2. Alors... que dire de ce tirage au sort?
Alors, Amine, il faut reconnaître que ce n'est pas une poule facile, mais ce sont des adversaires et des pays habitués que le Mali a d'ailleurs l'habitude d'affronter. Il faut rappeler qu'en 2015 au Niger, le Mali et la Côte d'Ivoire étaient dans une même poule. Et c'était d'ailleurs l'année où les Cadets maliens remportaient pour la première fois une compétition continentale après avoir organisé la compétition en 1995 lors de la première révision. En tout cas, le Mali et la Côte d'Ivoire se retrouvent. Donc, au Niger en 2015, c'était une victoire 1-0 du Mali, bien inscrit par l'ancien attaquant du Téliban, Boubacar Traoré. Donc, qui évolue pour le moment dans un championnat qui n'a pas à se lever. D'accord. Après la génération de Soumaïla Koulibaly, est bienvenue la génération Adama Diéf-la Diallo. C'est un nouveau. Un nouveau sélectionneur qui a été formé par un ancien également vainqueur de la compétition. Il s'agit de Baïba, qui a été sacré en 2017 au Niger avec les Cadets. Donc, il était à côté également de Nuno Tanné, qui était finaliste également au Cameroun en 2016, battu par le Maroc. Donc c'est une nouvelle formation mise en place par Adama Diplataro, qui est un habitué des académies. Il est passé par Guinée Olympique, il est passé par Afrique Elite. Et donc ce sont des clubs qui sont forts dans la formation. Donc Adama Diplataro a conçu sa formation basée beaucoup plus sur les académiciens venus du centre Jean-Marie Girou. On retrouve trois éléments qui étaient d'ailleurs aux éliminatoires de la CAN, de cette CAN donc au Sénégal, où le Mali a terminé finaliste malheureux par le Sénégal. Et donc après, vous avez des jeunes formés aux Étoiles du Mandé, qui est également une très bonne académie qui forme, à FC Dia. Donc au-delà de ça, vous avez un joueur du Djouba, un joueur du Stade Malien de Bamako, amené également par des formations, par des joueurs de Afrique Coupe Elite. Donc, c'est cette nouvelle génération qui a été mise en place. Hein. Elle a presque dominé toutes ses rencontres, à l'exception de la finale remportée par le Sénégal. Donc, ils sont en préparation actuellement depuis 2 mois. Et c'est dans cette semaine également qu'ils vont débuter les matchs amicaux. En tout cas, le Mali se retrouve dans la poule, accompagné également de l'Angola. Angola qui a terminé le 3e. 2019. Ça forme également beaucoup. Et en attendant, de savoir l'adversaire qui viendra également depuis l'Afrique centrale, comme vous l'avez mentionné, entre le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo ou encore la République centrafricaine. Donc, en tout cas, le Mali se prépare. La semaine qui va venir, en tout cas, ils vont commencer les matchs amicaux. C'est le travail foncé qui a débuté. Ils s'entraînent au stade Mamadou Konaté en attendant d'ailleurs dans les jours à venir, parce que la fédération avait parlé qu'il fallait arrêter de matchs amicaux ou aller participer à un tournoi au Maroc. On ne sait pas si ça va être le cas, mais en tout cas, ils sont là et ils vont débuter les préparations et les matchs amicaux la semaine à venir.
Préparation qui doit être sérieuse, sachant que cette CAN aura lieu en dehors des dates FIFA, donc exactement. Recours systématique au contingent local.
Tout à fait. Non, au fait, donc, le Mali, à ce niveau, on n'a pas de problème pour former des jeunes, parce que quand tu regardes toutes les dernières générations qui ont en tout cas connu du succès, ce sont tous des jeunes qui ont été formés au niveau local. Hein. Il y a Alex. Bon, c'est là, au moment de la. Quand l'équipe s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, où on essaie de trouver des 2-3 jeunes pour compléter le groupe. Sinon, d'ailleurs, toute la formation, en tout cas au niveau des jeunes, sont constitués par des jeunes qui évoluent au niveau local, par des formations, par le centre GMG, on a Étoiles du Mandé, on a Africa Foot, on a également les Étoiles du Mandé, ensuite on a le centre sportif de Bamako, on a le Yélé Olympique, le Gribat qui commence à former, le stade également qui forme. Donc toute la sélection est constituée de ces jeunes qui viennent de plus pratiquement. Beaucoup donc de ces centres de formation.
On parle aussi du rôle de Jean-Marc Guillaume. Je pense qu'il est parti de Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui il est un peu partout sur notre continent et donc il apporte un certain savoir-faire.
Ouais, un très bon savoir-faire, parce que c'est grâce à lui que le Mali s'est développé dans la formation. Il faut reconnaître que le projet, quand il arrivait, il ne trouvait pas preneur. C'est surtout Self Keïta qui a son âge au Lingo, qui l'a aidé à s'installer à Bamako en lui trouvant un terrain juste à côté de l'Agéral de Bamako pour le permettre à former. Et ces jeunes formés passaient également par l'Agéral. Et quand ils deviennent forts ils deviennent matures à Tanatia, donc ils trouvaient des clubs à l'extérieur. C'est le cas d'ailleurs de Mohamed Camara, c'est le cas d'ailleurs de Cheikh Doukou, de Ibissouma, de Amari Traoré, de Amadou Haïdara. Donc ce sont des jeunes également qui évoluent au haut niveau aujourd'hui parce qu'ils ont été bien formés. Donc suite à ça, le centre qui était également avait initié également un centre de formation Salif, et un centre de formation qui a formé également le Cheikh Doukou, le Mamadou Diaradila. Donc c'est cette idée qui a poussé Frédéric Koumar Kanouté à venir au Mali investir dans l'île olympique, et qui a été copié également par d'autres formations comme Siran Diabaté et Thomas Camara qui ont formé Afrique Foot Elite. Et après, Étoile du Mandé est venu également s'inspirer d'eux. Donc, c'est parti. Donc, on a le 168 de Bamako, les Abéancourt. Donc, les académies ont commencé à s'inspirer de ça. Et aujourd'hui, malgré ça, ils continuent à bien former. Je vais vous donner un nom. Retenez-le bien. Il s'appelle Sidou Dembélé. Mmh. Et je pense que au mois de mars, on en parlera lorsqu'il arrivera au Maroc.
Bon, en tout cas, on l'attendra avec plaisir au mois de mars prochain. C'est à partir du, 20, du 31 mars jusqu'au 19 avril. Merci beaucoup, Drissa Niounou. Il est 11h32. Cap sur Tunis avec Ahmed Adala. Bonjour, Ahmed. Ahmed Adala, qui devrait être à l'autre bout du fil. Bonjour, Ahmed. Alors, on va attendre que ça se puisse se préciser. Bonjour, Ahmed.
Bonjour, cher ami. Bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Et on va commencer déjà par une petite fumée blanche. La Tunisie, enfin, sélectionneur titulaire. Sami Trabelsi a coché toutes les cases et il retrouve une sélection qu'il avait déjà entraînée lors du CHAN 2011 et de la CAN 2012.
Exactement. Il retrouve une sélection qu'il avait menée au titre, au trophée. Rappelons-le pour petite lueur d'espoir, qui avait battu l'Algérie et le Maroc lors du CHAN 2011. Il retrouve une sélection avec laquelle il avait atteint les quarts de finale en 2012 et il a quitté la sélection après une élimination lors du premier tour de la CAN 2013. Donc depuis, il est parti au Qatar avec une expérience de plus de 10 ans avec Assyrie, un club moyen. Qu'est-ce qu'il va amener? Qu'est-ce qu'il va reconstruire? Comment va-t-il se comporter? Tout en sachant que lors de sa dernière campagne, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à la discipline, la copie rendue lors de la CAN 2013. Il y avait beaucoup d'interrogations. Donc voilà, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a développé ses tactiques, son technique? On va le découvrir dès le mois de mars prochain, en marge de deux matchs contre la Libéria et le Malawi pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Dénominateur commun, il y avait déjà Youssef Msakni en 2012.
Mais on ne sait toujours pas si c'est dénominateur commun déjà 2012, dénominateur commun déjà le slalom. Je dois encore le rappeler, hein. Tu te pousses à le
oui,
faire.
Oui, 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 mais il n'y a pas de problème. On est mazo. Il n'y a pas de problème.
Le slalom contre le Maroc.
Contre Benatia.
Présent au stade.
Il n'y a pas de problème.
C'était un magnifique match.
J'y étais aussi, après, donc, pour te dire, on ne s'est pas croisé. Donc, c'est comme ça.
Mais après, est-ce qu'on sait qu'il sera déjà ici, parmi les sélectionnés au prochain stage ou pas? Ça, on ne le sait pas toujours. Hein.
Alors, justement, il n'y a pas eu encore de communication, pas de conférence de presse, donc pas, je dirais, de stratégie établie. Mais
si, il y a eu une conférence de presse, Amine, mais c'était une conférence de presse de présentation, là où il avait répondu à plusieurs questions, mais sans vraiment donner des détails par rapport à la sélection, à la prochaine conférence de presse pour l'annonce des joueurs. Il a juste dit que on n'a pas de temps. On va rappeler les noms que vous connaissez déjà. On va essayer de remporter les six points dans la course à cette qualification à la Coupe du Monde. Puis on verra qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette sélection.
Au niveau des catégories de jeunes, la Tunisie a été repêchée pour la CAN U17. Elle tombe dans le groupe du Sénégal. Ce n'est pas un groupe facile. Je rappelle que c'est une compétition qui aura lieu au Maroc. Le Sénégal, la Gambie, la Somalie, la Tunisie sont dans le groupe C. Une équipe qui avait montré beaucoup de qualité lors du tournoi éliminatoire UNAF qui avait eu lieu au Maroc. Et qui avait été éliminée sur quelques petits détails. Voilà, elle a une petite séance de rattrapage, non seulement pour briller à la CAN, mais également pour se qualifier à la Coupe du Monde au Qatar.
Exactement. C'est une occasion qui tombe du ciel. La CAF avait tort dès le départ. Il fallait revoir le nombre des équipes qualifiées à la hausse, vu qu'on devrait avoir 10 nations à la prochaine Coupe du Monde. C'est une occasion à ne pas rater, surtout que ça va sauver toute une génération et un entraîneur qui a vraiment de l'ambition, qui a montré qu'il a vraiment des idées. Mohamed Amin Nafet est un ancien joueur de l'Espérance sportive du tennis, de Hammam Lymph, etc. Donc, c'est une occasion à ne pas rater. Le groupe, oui, le Sénégal, c'est un grand morceau. La Gambie ils ont des sélections
au niveau des jeunes
qui sont ils sont forts hein. Après la Somalie, on va essayer de d'arracher cette qualif non seulement au quart de finale mais aussi à la Coupe du monde. Ça serait vraiment génial de profiter de cette occasion, surtout qu'on va disputer deux matchs au Maroc
Suffit de se qualifier pour les quarts de finale pour d'avoir s'assurer une place en Coupe du monde parce qu'il y en aura 10 pour l'Afrique.
Exactement, mais il y a aussi
c'est une compétition à 32 au Qatar.
Voilà, il y a aussi les quatre troisièmes qui vont se disputer entre eux pour deux places, je pense. Donc voilà, c'est une occasion à ne pas rater. On va devoir en profiter pleinement. Et déjà, la sélection est partie en stage pour préparer cette CAN.
Ça veut dire qu'on prend les choses au sérieux au niveau de la Fédération tunisienne de football. Justement, avec le fonctionnement du nouveau bureau fédéral, de la structure technique, est-ce qu'on va essayer de rattraper le retard qui a été concédé lors des dernières années, notamment après, je dirais, le gel du travail de la Fédération tunisienne avec l'incarcération de son ex-président. Justement, la Tunisie a toujours bien travaillé au niveau des jeunes. Est-ce qu'il y a des stages pour les sélections U17, U20, U16, U15, de façon à pouvoir travailler sur la durée?
U20, il n'y a rien. Ça, c'est vraiment un très grand point d'interrogation. Par contre,
faut profiter des dates FIFA, des tournois, de choses.
Comment?
Faut profiter des dates FIFA pour pouvoir faire des rassemblements.
Oui. Il faut en profiter, mais il n'y a rien. Il n'y a pas un stage pour le moment. Par contre, peut-être que ça sera la bonne nouvelle pour moi. C'est beaucoup plus important que la nomination de Samy Trabelsi qui est à la tête de la sélection. Il n'a pas donné son accord jusque-là, mais on se dirige à la nomination de Mounir Lekbaïr en tant que directeur technique national, directeur technique de la Fédération tunisienne. Si ça se concrétise, ça serait vraiment une très, 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 très belle nouvelle, une très, très bonne nouvelle pour mettre en place une stratégie de travail, parce que là, on en a marre. Hein. On en a marre de tout ce qui s'est passé lors des derniers mois, en espérant que ça se concrétise. Mais peu importe, même si ça se confirme pas, on devrait avoir un directeur technique de renommée, qui a de l'expérience. On va attendre parce qu'il faut tout revoir au niveau de la section. Et je pense que t'as pas peut-être la formation par rapport à ce qu'attend le Tunisien aujourd'hui. Nous, on a la Super Coupe aujourd'hui, Amine, il faut en parler. C'est entre le tenant du titre, le champion de la Tunisie la saison passée, l'Espérance Sportive du Tunis, et le vainqueur de la Coupe de la Tunisie 2023-2024, le Stade Tunisien. Un très bon morceau que je t'invite vivement à regarder, soit sur la chaîne nationale, la chaîne tunisienne nationale, soit sur, bien sûr, Alkes au Qatar. Je t'invite à regarder le match, Amine.
Et j'espère qu'il y aura de la passion, de l'ambition, du jeu, de façon à pouvoir retrouver un beau vainqueur de cette Super Coupe de Tunisie. Merci beaucoup, Ahmed Adala. Il est 11h40, cap sur la République démocratique du Congo avec Michel Toubou. Il y a beaucoup de sujets évoqués concernant l'actualité de la RDC. Je laisse Michel s'exprimer. Bonjour, Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci infiniment de me donner encore ce petit moment pour réagir par rapport justement voilà à l'actualité sportive. Bon, on va dire sur le continent hein. On commence par bien évidemment hein les tirages au sort des Coupes d'Afrique de moins de 20 ans et de moins de 17 ans. La Paix démocratique du Congo est concernée bien évidemment par les deux tirages au sort. On commence bien évidemment par la plus pressante, là où la qualification est déjà acquise, hein, celle de moins de 20 ans. Voilà, les Léopards ont été placés dans le groupe A, hein, voilà un groupe plus ou moins abordable quand même, hein. Bon, on regarde toutes les équipes qui sont là, hein, bien évidemment. Donc voilà, les Léopards se sont qualifiés avec beaucoup de brio, on va le dire comme ça, dans leur tournoi zonal à Brazzaville il y a quelques mois. Personne ne leur donnait la chance justement de se qualifier parce que le grand favori de la zone, hein, le Cameroun, n'a pas été véritablement en forme. Hein. Les Léopards les ont croisés, bien évidemment. Voilà, et ils se sont imposés 1-0. Hein. C'est une équipe des Léopards qui était essentiellement composée hein, des jeunes joueurs évoluant ici au pays. Hein. C'est un club Motema Pembe ou encore Mazembe. Voilà, et c'était quand même une très bonne chose. Les Léopards se sont battus. Hein. C'est un effectif de de 23 joueurs que Guy Boukassa, le sélectionneur national, a amené du côté de Brazzaville, mais suite à des problèmes administratifs, seuls 12 joueurs, un gardien réserviste et un joueur de champ qui était seulement un réserviste. Les autres avaient des soucis administratifs, donc ils ne pouvaient pas jouer. Donc voilà, et c'était quand même assez dur, mais voilà, avec beaucoup d'espoir, hein, voilà, Guy Boukassa a réussi avec l'ensemble de son staff technique à faire en sorte que cette équipe puisse se qualifier en remportant ce tournoi. Il suffisait de se qualifier, hein, pour la finale, pour avoir une place qualificative pour ce tournoi, mais les Léopards sont allés très loin en s'imposant en finale face au Diable Rouge du Congo Brazzaville dans un match épique, hein. Voilà, vous savez, la rivalité qui lie les deux Congo. Donc voilà, les Léopards sont allés prendre cette qualification sur place à Brazzaville, hein. C'est pour la toute première fois que les Léopards remportaient ce tournoi zonal de l'UNIFAC. Ça avait fait énormément plaisir, bien évidemment, à l'ensemble du peuple congolais, voilà, parce que ça fait longtemps quand même, hein, que les Léopards n'avaient plus participé à cette Coupe d'Afrique de mois de 20 ans. Ça prouve à suffisance que l'élan que les Léopards a, les seniors, hein, ont impulsé depuis quelques temps, c'est, ça et là s'entraîne également, hein. Il y a un effet d'entraînement sur les sélections nationales de jeunes. Tant mieux, voilà. Au moins, on est rassuré que l'avenir est assuré, donc, du côté des Léopards au sein de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Pour le moins les 17 ans, voilà, la qualification n'est pas encore acquise. Voilà. Voilà, l'équipe est en préparation ici à Kinshasa depuis quelques jours, hein. Le tournoi zonal va se disputer du côté de Yaoundé au Cameroun dans quelques jours. Voilà. On espère que les Léopards vont également faire de même, voilà, pour se qualifier pour cette compétition. Mais l'actualité sur le plan national, Amine Birouk, c'est bien évidemment la reprise effective maintenant, hein, donc du championnat avec la phase retour de la première phase, hein, donc qui commence ou qui a commencé le samedi 15 avec quelques matchs. Donc voilà, mais les favoris sont toujours là, hein. On reviendra en plus long en large la semaine prochaine, bien évidemment, lors de notre prochaine intervention. Merci, hein, infiniment de m'avoir accordé ce petit temps. On se retrouvera certainement le samedi prochain pour une autre intervention en rapport avec cette émission. Merci à vous et bonne continuation.
Merci Michel Tobo, merci à nos amis de la République démocratique du Congo. On va rester dans la zone, on va rester en Afrique centrale pour retrouver David Yenge. Bonjour David.
Bonjour Amine, bonjour.
Ben justement, il y a un sujet qui s'appelle les éliminatoires de la CAN U17 zone Afrique centrale qui va avoir lieu justement au Cameroun, et certaines accusations ont été fomentées. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas concernant l'âge de certains joueurs de la sélection camerounaise? En tout cas, le sélectionneur de l'équipe de Centrafrique, Dertin Boulengue, n'y est pas allé de main morte.
Oui, il faut déjà, hein, à la suite de notre confrère de RDC Congo, de la République démocratique du Congo, rappeler que la compétition a bien lieu à Douala et elle démarre dans quelques heures seulement. Dans une heure et demie, la compétition va commencer avec le match Cameroun-République centrafricaine. Et le deuxième match, c'est la République démocratique du Congo qui va rencontrer le Gabon. Ça, c'est pour les éliminatoires de la zone UNIFAC pour les U17. Alors, voilà. Pour revenir à votre préoccupation, oui, le sélectionneur de la République centrafricaine n'y est pas allé de main morte. Il a déclaré que les joueurs du Cameroun étaient supposés être plus âgés. Il les a qualifiés de père, de papa. En concurrence avec ces joueurs qui sont supposés être des enfants et donc les moins de 17 ans. Eh bien, c'est de bonnes guerres parce que vous savez que le Cameroun vient d'être éliminé pour le CHAN par la RCA, notre voisin. Et vous savez que la compétition est sous l'égide de la CAF et donc la CAF a dépêché des experts qui ont utilisé le système IRRM. Et tous les joueurs qualifiés pour cette compétition sont passés sous le test de IRM, ne peuvent prendre part à la compétition que si ils sont passés par ce test-là. Et donc, les joueurs camerounais, il y a 9 qui ont été recalés par ce test de l'IRM. Et donc tous ceux qui sont aujourd'hui qualifiés à disputer la compétition sont ceux qui sont effectivement à l'âge de jouer cette compétition. Donc on a supposé au Cameroun, la fédération n'a pas répondu à cette attaque de l'entraîneur de RCA, simplement parce qu'on sait qu'avant un match qui va opposer les deux équipes, il doit avoir quelques pics lancés ici et là. La compétition va démarrer donc à 13h30 au stade annexe de la réunification. Et pourtant, du côté de la RCA, on a mis une annonce sur le site de la fédération qui dit que la compétition se joue sur un autre stade à une autre heure. Nous pensons que peut-être qu'ils se sont trompés de l'heure et du stade, mais les équipes sont logées dans le même hôtel avec les dirigeants, les arbitres, et donc on n'a pas, on ne risque pas d'avoir un forfait. On sait que le match entre le Cameroun et la République centrafricaine va se jouer à 13h30 aujourd'hui.
À Douala.
Au stade annexe de la réunification.
Alors justement, tu m'as parlé, mon cher David, de 9 cas qui ont été recalés. Ça revient à révéler ou à corroborer une problématique qui est persistante dans le football camerounais au niveau des jeunes, puisque l'année dernière, il y avait déjà eu le recalage d'une soixantaine de joueurs pour fraude sur l'âge.
Écoutez, il y a un problème d'identification au Cameroun. Ce ne sont pas que les jeunes. C'est le système d'identification au Cameroun a un problème, et donc la confection des passeports, des cartes d'identité, si vous regardez dans le secteur, tous les Camerounais ont des problèmes d'identité, et donc l'État est en train de travailler pour réguler les choses dans ce secteur-là. Maintenant, il y a le problème des centres de formation et des joueurs qui font partie de ces centres de formation. Il y a des parents, effectivement, qui peuvent vouloir tricher sur l'âge et qui, quand l'enfant a un retard, le place dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Mais quand il doit prendre part à une compétition internationale, effectivement, il y a des mécanismes de contrôle comme ceux que la CAF utilise, l'IRM, et donc, ils ne veulent pas passer. L'année dernière, ce qui s'était passé, c'était la fédération elle-même qui, au moment du regroupement, avait décidé de faire un test pour les présélectionnés qui entraient dans un stage. Et on avait constaté qu'effectivement, il y avait plusieurs joueurs qui ne pouvaient pas répondre à cette catégorie. Et on n'avait pas attendu d'entrer dans une compétition pour se faire prendre par les experts de la CAF. Alors, c'est une volonté à l'intérieur de la fédération d'assainir, parce qu'on sait que dans plusieurs centres de formation, il y a des joueurs qui évoluent dans les catégories qui ne sont pas les siennes.
Alors
voilà ce qui s'est passé l'année dernière.
On va monter quand même un peu plus haut chez les seniors où Marc Brice prend le
point. Peut-être chez les U20 parce que Amine, peut-être que vous êtes au courant, le Cameroun avait terminé troisième à l'UNIFAC l'année dernière en RDC,
oui.
Non, en République du Congo. Où la République démocratique du Congo avait gagné le trophée et s'était donc qualifié pour la CAN. Et la Fédération congolaise de football vient d'être suspendue, et toutes ses équipes nationales avec. Le Cameroun, ayant terminé troisième, va certainement prendre la place du Congo et donc participer
à la CAN U20 Côte d'Ivoire.
Des nations des U20. Qui aura lieu en Côte d'Ivoire.
Alors justement, on va monter un peu plus haut chez les seniors. Là, il n'y a pas de problème d'âge. Marc Brice qui tremble un peu pour Georges-Kevin Koudou, qui est en grande forme avec le club saoudien de Damak et qui a été contraint de quitter le terrain sur blessure lors d'un match du championnat.
Oui, vous savez que cela peut se passer. Un joueur est en très grande forme et quand il quitte le terrain sur blessure, ça va faire quelques grincements dedans, quelques cheveux blancs pour le sélectionneur qui compte avoir en très grande forme tous ces joueurs au moment du regroupement qui aura lieu dans quelques semaines. Mais le Cameroun n'est pas à une dépendance près. Vous savez que le Cameroun a des talents, le Cameroun a un vivier de joueurs, que ce soit à l'équipe nationale A ou bien dans d'autres équipes nationales de catégorie. Il y a toujours suffisamment de joueurs pour occuper un poste. On sait que notre frère et ami Kevin Kudu est en grande forme et est blessé pour le moment. On attend certainement les résultats du staff médical de son équipe, mais on espère aussi qu'il pourrait se rétablir avant le regroupement qui aura lieu dans quelques semaines. Le Cameroun, comme je vous l'ai dit en résumé, le Cameroun ne peut pas seulement attendre d'un joueur. On sait que l'effectif est assez épuisé. Les Camerounais sont très en forme depuis un certain temps dans leur championnat respectif. On espère que les Lions Indomptables vont bien se comporter au prochain regroupement, même si Jean-Kevin Kudu ne sera pas là.
On verra bien évidemment avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça s'annonce dans quelques semaines. Merci David Eyengue.
On peut peut-être terminer avec le championnat de Ligue 1, qui est dans la crise. Tous les grands clubs sont dans la crise. Victoria United, qui est le champion sortant, aligne une série de défaites. Ils sont déjà à 3 défaites et ils vont jouer pour la 12e journée aujourd'hui. L'Union sportive de Douala se sépare de son directeur général alors que l'Union vient de recruter un nouvel entraîneur. Le canon sportif de Yaoundé, Amaya, parti avec son staff technique. On voit le directeur technique de l'équipe qui prend la place de l'entraîneur principal pour diriger les séances d'entraînement. Et donc, vous comprenez que la grande partie du football d'élite du Cameroun est dans la pagaille. Il y a beaucoup, beaucoup de crises au sein du football camerounais, que ce soit en club ou vraiment vers nos équipes nationales.
Et puis pour terminer, mon cher David, la pagaille, vous l'exportez de temps en temps chez les voisins avec le problème du sélectionneur en République centrafricaine et notamment le cas Rigoberto. Il va falloir nous donner le secret de ce genre de ce genre d'attitude. Merci beaucoup, merci infiniment David Eyengue de nous avoir accompagné. D'ailleurs, nous allons rester dans la sous-région puisque tu nous as parlé des accusations de la Centrafrique concernant l'âge des joueurs camerounais en catégorie U17. Nous allons avoir d'ailleurs le ressenti de notre ami Christian Dota du côté de Bangui. Bonjour Christian.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Mars Africa. Comme tu l'as dit, les Fauves de Bazoubangui version U17 entrent en compétition à 13h locale, même heure à Bangui comme à Douala, et affrontent le Cameroun. Les Centrafricains se trouvent dans la capitale économique camerounaise depuis le jeudi dernier et l'équipe est entraînée par Sir Dertin Boulengue, un ancien joueur devenu entraîneur de cette catégorie. Les U17 Centrafricains n'ont pas un palmarès fourni, aucune qualification à une Coupe d'Afrique des Nations, encore moins à la phase finale d'une Coupe du Monde. Par contre, les U17 ont déjà remporté le tournoi UNIFAC et c'était en 2009 à Limbé, au Cameroun justement. Ils avaient alors battu en finale le Gabon 2-1. Alors, cette génération 2025 sera-t-elle capable de relever le défi? On le saura à la fin de ce tournoi. Quoi qu'il en soit, ils ont en mémoire l'exploit réalisé par leurs aînés U20 qui ont éliminé le Cameroun à la surprise générale durant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Voilà Amine, les regards des Centrafricains sont donc tournés vers Douala et la Fédération Centrafricaine de Football a lancé un appel en direction de la forte communauté centrafricaine de Douala afin d'aller massivement supporter les Fauves U17 pour tenter de dompter les lionceaux indomptables du Cameroun. Voilà Amine, on va donc suivre ce tournoi U17. Merci et bon dimanche à vous.
Merci, bon dimanche à tous et à toutes puisque nous arrivons à la conclusion de ce numéro de Mars Africa. Merci à l'équipe qui a contribué à la réalisation et à la confection de ce numéro. On se retrouve dimanche prochain si vous le voulez bien. Ce sera toujours avec plaisir de vous accueillir entre 11h et midi tous les dimanches sur Radio Mars. Dans quelques minutes, l'émission 100% consacrée au football féminin. Et juste avant, une synthèse de l'actualité qui vous sera proposée par Mehdi Ben Hellal. Bon dimanche à toutes et à tous.